Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de 9R3. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. La faute de l'orthographe, la convivialité est un essai illustré de Arnaud Hoth et Jérôme Piron, avec des images de Kevin Matagne, publié chez Textuel en 2021. Issu du spectacle La convivialité, le livre examine la place exceptionnelle accordée à la norme orthographique dans la langue française. Son propos ne consiste pas à fournir un manuel pour éviter les erreurs, mais à interroger les raisons historiques, sociales et pédagogiques qui font de ces erreurs des fautes lourdement jugées. Textes, illustrations et bandes dessinées servent une critique accessible, documentée et volontairement incisive. Les auteurs mettent en évidence le caractère peu cohérent de nombreuses règles et contestent les récits simplifiés qui présentent cette graphie comme naturellement rationnelle ou immuable. Le livre traite donc de langue, mais aussi de sélection scolaire, de légitimité culturelle et de rapport de pouvoir, par son ton humoristique. Il invite à distinguer la nécessité de conventions écrites et la tendance à transformer leur maîtrise en mesure générale de intelligence ou de valeur sociale. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, mettre en cause le dogme plutôt que la langue française. Le point de départ du livre est une question simple mais rarement posée. Une orthographe doit-elle être respectée sans discussion parce qu'elle est la règle en vigueur? Cette distinction est essentielle. Les auteurs ne nient pas qu'une convention graphique facilite la circulation des textes et la compréhension entre lecteurs. Ils contestent plutôt le statut moral et intellectuel accordé à la conformité parfaite à cette convention. Dans les usages ordinaires, une erreur orthographique est souvent interprétée comme un signe de négligence, de manque de culture ou de faible intelligence. Alors que la relation entre graphie et compétence de pensée est loin de être automatique, le livre déplace ainsi le débat. Au lieu de demander seulement comment appliquer les règles, il demande pourquoi certaines règles ont acquis une autorité si forte et pourquoi leur transgression suscite autant de réactions. Cette critique vise le dogme orthographique, non la possibilité même de écrire. Elle permet de voir la norme comme une construction collective, susceptible d'être étudiée, discutée et modifiée. Cette perspective est particulièrement utile dans un contexte scolaire, où la correction peut prendre une place disproportionnée par rapport au contenu, au raisonnement et à la capacité de communiquer. Deuxièmement, montrer les incohérences concrètes de la graphie française. La force argumentative de la convivialité tient au rappel que l'orthographe française ne forme pas un système entièrement phonétique ni parfaitement logique. Elle associe des traces historiques, des choix savants, des régularités partielles et de nombreuses exceptions. Une même prononciation peut être transcrite de plusieurs manières, tandis que des lettres écrites ne correspondent pas toujours à des sons effectivement prononcés. Pour les auteurs, ce constat ne sert pas à déclarer la langue chaotique ou impossible à apprendre. Il sert à récuser idée selon laquelle toute faute manifeste nécessairement une absence de raisonnement. Une graphie jugée incorrecte peut parfois suivre une logique sonore ou analogique très compréhensible. Le mot « faute », fréquemment mobilisé dans la réception du livre, résume ce décalage entre une production logique pour un apprenant et une norme imposée par convention. En insistant sur les absurdités et les irrégularités, le livre rend visible des difficultés que les personnes expertes finissent souvent par ne plus percevoir. Il rappelle que la maîtrise résulte largement de exposition, de entraînement et de familiarité avec les formes consacrées. Cette analyse aide à séparer les mécanismes linguistiques réels des jugements hâtifs portés sur les scripteurs. Troisièmement, défaire les récits mythifiés sur les origines des règles. Le livre souligne que les racines de l'orthographe française sont plus fantasmées que ne le suggère le discours courant. Beaucoup de justifications avancées pour défendre une graphie particulière invoquent spontanément étymologie, la tradition ou une logique ancienne. Or, ces explications ne suffisent pas toujours à rendre compte des formes actuelles, issues de couches historiques variées et de décisions de normalisation. La critique ne consiste pas à rejeter l'histoire de la langue. Au contraire, elle attire attention sur la manière dont histoire est parfois utilisée comme argument automatique pour sacraliser une convention présente. Une origine ancienne ne démontre pas à elle seule qu'une difficulté doit être maintenue ni que son enseignement doit servir de filtre social. Cette distinction entre explication historique et justification normative constitue un apport intellectuel central. Elle évite deux positions symétriquement simplistes, croire que toutes les règles sont parfaitement fondées, ou croire qu'aucune règle ne possède de fonction. Le lecteur est invité à considérer la norme comme le résultat de choix humains inscrits dans une histoire et non comme une vérité naturelle. Cette approche ouvre un espace de discussion sur les réformes, les pratiques pédagogiques et les critères selon lesquels une communauté décide de conserver, simplifier ou faire évoluer ses conventions écrites. Quatrièmement, relier la faute orthographique aux inégalités d'apprentissage, la convivialité met en lumière la dimension sociale de la correction orthographique. la norme n'est pas acquise dans les mêmes conditions par toutes et tous. Elle demande du temps, des lectures répétées, un enseignement explicite et une familiarité avec des usages valorisés. Lorsque institution scolaire ou monde professionnel traite une erreur comme une preuve globale de incapacité, il risque de confondre accès inégal au code et absence de compétences. Le livre ne prétend pas que les difficultés de écriture se réduisent à une seule cause sociale. Il montre plutôt que la sévérité attachée aux fautes produit des effets de tri qui dépassent la simple lisibilité des messages. Cette idée concerne directement les enseignants, les élèves et les personnes chargées de recruter ou de évaluer. Elle invite à mieux hiérarchiser les objectifs, comprendre une idée. Construire un raisonnement, adapter un discours et respecter une convention ne constituent pas une seule et même aptitude. Une évaluation plus juste peut conserver des exigences de clarté tout en évitant que la graphie absorbe toute attention. En exposant le coût symbolique de la faute, les auteurs font de orthographe un objet politique et pédagogique, plutôt qu'un simple catalogue de pièges individuels. En dernier lieu, employeur humour, dessin et bande dessinée comme outil critique. Le choix de la forme participe pleinement au projet du livre. Plutôt que d'adopter le ton austère de nombreux ouvrages consacrés aux règles, la faute de l'orthographe combine texte, illustration et bande dessinée. Cette composition prolonge l'esprit du spectacle dont le livre est issu, elle rend un sujet souvent anxiogène plus accessible sans en diminuer la portée critique. Le rire permet ici de désamorcer la honte associée aux erreurs et de rendre perceptibles des mécanismes que la solennité masque facilement. Une contradiction orthographique ou un jugement excessif devient plus facile à examiner lorsqu'il est mis en scène visuellement. Cette méthode possède aussi une fonction pédagogique. Elle ne demande pas au lecteur de accepter une thèse abstraite sur la norme. Elle lui donne des situations, des formulations et des écarts à observer. Le format bref et visuel favorise une lecture par étapes. Adapté autant aux personnes déjà intéressées par la linguistique qu'à celles qui abordent le sujet depuis expérience de école ou de la correction quotidienne. Cette alliance entre rigueur critique et convivialité distingue le livre d'un traité technique. La forme ne remplace pas analyse. Mais elle en devient le moyen, elle installe les conditions de distance nécessaires pour discuter une règle que beaucoup considèrent comme indiscutable. En conclusion, la faute de l'orthographe, la convivialité intéressera en premier lieu les enseignants, les étudiants. Les parents et les apprenants de français confrontés à la place parfois écrasante de la correction. Il sera également utile aux lecteurs qui travaillent sur les questions de langage, de sélection scolaire ou de culture écrite, sans exiger de connaissances spécialisées en linguistique. Son bénéfice principal est de fournir un cadre pour parler de orthographe avec davantage de précision, une convention peut être utile, difficile et historiquement construite à la fois. Cette nuance aide à éviter aussi bien le mépris des fautes que le refus simpliste de toute norme. Pour les professionnels de l'éducation, le livre peut soutenir une réflexion concrète sur les priorités de enseignement et de évaluation. Pour les autres lecteurs, il éclaire les réactions émotionnelles et sociales attachées à des détails graphiques qui semblent souvent aller de soi. Par rapport au manuel de règles, il ne cherche pas à multiplier les exercices ni à promettre une maîtrise parfaite. Par rapport aux essais savants sur la langue, il se singularise par une forme hybride, visuelle et humoristique, issue de la scène, ainsi que par son attention directe aux effets sociaux du dogme orthographique. Sa contribution tient donc moins à proposer une réforme détaillée qu'à rendre discutable une évidence culturelle. Il transforme un sujet réputé technique en question de justice, de pédagogie et de rapport collectif aux mots. Si vous souhaitez soutenir Arnaud Hoët, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.